Bonsoir. Bonsoir tout le monde. D'abord, je suis ravi de vous retrouver, enfin, depuis peut-être l'année dernière, je crois, ou un peu plus, non, il y a 2 ans. Un peu plus. Et merci, hein. Merci à Véronique, merci à Philippe, merci à Alexandre, et puis merci à ceux qui nous prêtent ce lieu pour, je dirais, pour tout simplement pour partager avec vous des réflexions. Une réflexion, mais il n'y a pas une seule, il y en a un peu plus. Alors, c'est vrai que le thème est assez complexe et en même temps un thème intéressant. Et il est vrai que vous dire aujourd'hui que le judaïsme serait une religion de la transmission, c'est une question qui serait complètement absurde. Parce que je suppose que dans toutes les religions, on parle de transmission. Mais je voudrais d'abord, avant de parler de la transmission, vous faire un petit peu la genèse de l'histoire de la transmission. D'abord, il faut savoir que il y a peut-être, on va les appeler comme ça, 4 grandes lignes. Il y a l'histoire de la Genèse que tout le monde connaît, de la création. Il y a avant cela donc la période adamique, Adam et Ève, jusqu'à Noé. Et à partir de l'histoire de Noé que tout le monde connaît avec le déluge, même je crois les enfants la connaissent très bien parce que il y avait des crocodiles, des orangs-outans, enfin plein de, avec Noé dans l'arche, bien sûr. Et puis vous avez, à partir de Noé jusqu'à Abraham, qu'on appelle dans l'islam Ibrahim al-Khalil, Abraham le patriarche. Et vous avez de Noé jusqu'à Adam, de Adam jusqu'à Noé, et de Noé jusqu'à Abraham, vous avez à cette période, il y avait des lois dites noachites. Après le déluge, il y a eu des lois noachites qui sont au nombre de 7, je ne vais pas les citer tous, mais des lois universelles. Et ces lois se transmettaient donc de génération en génération jusqu'à la période de Abraham. De cette période de Abraham jusqu'à Moïse, alors je saute tous les passages, si vous voulez, Abraham, Isaac, Jacob qui avait un autre prénom, Israël. Israël a eu 12 enfants, donc les 12 tribus, et c'est ce qui a formé les enfants d'Israël, le peuple d'Israël. Il faut savoir que jusqu'à la période de Moïse, il y a une période qu'on appelle avant le don de la Torah. Et à partir de Moïse, le don de la Torah. C'est-à-dire que il y a une génération, il y a eu exactement depuis Abraham jusqu'à Moïse, faudrait peut-être les compter le nombre de générations, mais c'est très simple. Enfin, une génération de l'époque n'est pas la même génération d'aujourd'hui. Hein. On peut peut-être calculer une génération 35-40 ans aujourd'hui, alors que bon, peut-être que selon les textes, bien sûr, je parle pas sur un plan scientifique, là, je parle sur ce qui est marqué dans les textes bibliques. Hein. C'est ma référence. Et donc, il faut savoir que à l'époque d'Adam, les gens vivaient très 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 vieux selon la Bible. Par exemple, Adam a vécu 930 exactement. Noé a vécu presque 950. Ouais, je sais pas, nous, quand on vit 120, déjà, la sécurité sociale commence un petit peu à tirer les... Ensuite, Abraham a vécu, au fur et à mesure des générations qui ont suivi donc, de Noé jusqu'à Abraham, il y a exactement 10 générations. Alors, comme je vous l'ai dit préalablement, les générations de cette époque ne correspondent pas à nos générations. Donc, quand on sait que Noé a vécu 950 année, donc il a presque connu Abraham 10 générations après. Noé, par exemple, a eu donc trois fils. Et parmi ces trois fils, il y a Sem qui a donné la descendance d'Abraham. Donc finalement, on est tous des Sémites, quelque part, parce qu'on descend tous de Sem. Et donc, de Abraham jusqu'à... Il y a eu donc Isaac, Ismaël, Isaac, Jacob, donc c'est la troisième génération, voilà. Ensuite, les enfants de Jacob, la quatrième génération, Moïse étant l'arrière-petit-fils de Lévi, pardon de vous faire un petit peu d'histoire, mais ça ne fait pas de mal, Moïse étant le fils d'Amram, qui lui-même est le fils de Kehath, qui lui-même est le fils de Lévi, et Lévi étant le troisième fils de Jacob. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posent souvent la question, que représente Lévi ? Lévi a donné naissance au Cohen. Quand vous entendez le Cohen, c'est le prêtre. C'est ce qu'on appelle les prêtres qui ont eu cette obligation de servir dans le temple. Et chez les musulmans, on appelle ça shérif. Hein, vous vous rendez compte, souvent quand on arrive au Maroc, en Algérie, en Tunisie, on appelle quelqu'un shérif. Ça veut dire un monsieur d'une certaine importance. Donc le Lévi descend de ça. Donc Moïse, quelque part, ben, on a compté ensemble, c'est quoi, 7 générations jusqu'à Abraham. Donc, depuis cette période jusqu'à Moïse, toutes les lois, c'était des lois, les 7 lois noahides. Mais néanmoins, quand on prend dans les textes, il n'y a pas que des lois noahides. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Abraham, lorsqu'il a eu la révélation de Dieu, et qu'il lui a demandé de quitter sa patrie, son pays, pour aller vers un pays que Dieu lui-même lui indiquera, il lui a aussi donné comme mission de faire la circoncision. Abraham s'est fait circonscrire, à l'âge de 99 ans. Donc ça nous laisse beaucoup, ça nous laisse le temps. Et donc, si vous voulez, la circoncision fait partie des obligations religieuses dans chaque foyer juif. Et elle est aussi, est-ce qu'elle est religieuse dans l'islam ? Ça c'est encore un autre problème, elle est traditionnelle, parce qu'il y a une partie de l'islam où c'est plus de la tradition que une obligation. Mais en tout cas, dans le judaïsme, non seulement c'est une obligation, mais c'est une obligation à partir du 8e jour. Et donc on voit que ce commandement, si j'ose dire, a été donné à Abraham bien avant même que la Torah n'ait été donnée. Ce qui me fait dire que donc la transmission ce qu'on appelle une mitzvah en hébreu, qui veut dire de ce commandement, est passé de génération en génération. Il a été affirmé ou réaffirmé lors du don de la Torah. C'est-à-dire que pendant toute la période, et pardon encore de faire un peu d'histoire, parce que c'est important de connaître cette partie d'histoire pour mieux comprendre la suite tout à l'heure de ce que je vais avancer de mes propos. En réalité, jusqu'à la vente de Joseph, Joseph étant l'avant-dernier fils de Jacob, et à cause de la famine qui sévissait en pays de Canaan, les enfants d'Israël, c'est-à-dire les fils de Jacob, ont dû descendre en Égypte, parce que cela aussi, si vous vous référez à ce qui a été dit à Abraham, Dieu lui-même a dit à Abraham dans un songe, sache, parce qu'un jour, Abraham a demandé à Dieu dis-moi un jour qui va mériter. Et je n'ai personne. Et puis tu me dis que ce pays va m'appartenir un jour, mais comment vais-je le savoir? Dieu lui répond, le fait tomber dans une forme de torpeur, dans un sommeil profond, et il lui montre, il lui met un DVD, enfin, je ne sais pas si existe encore les DVD, il lui dévoile toute l'histoire future du peuple juif. Il lui montre la servitude et l'exil. C'est-à-dire que il lui dit la chose suivante, sache, Abraham, que tes descendants seront un jour esclaves dans un pays étranger. Ils les feront souffrir, mais sache aussi que je serai juge. Et ils partiront, je vous lis un petit peu le texte, un petit peu ce qui est marqué d'une manière littérale, après on peut lui donner plusieurs sens, ils partiront par la suite avec une grande richesse. Je serai juste, donc je jugerai, ils partiront avec une grande richesse. Donc la servitude, l'esclavage en Égypte a été déjà annoncé à Abraham, bien avant même s'il y a eu la vente de Joseph, ben c'était juste un prétexte. On dit en arabe « seba », « siba » en hébreu. Vous voyez que ça se rejoint un petit peu. C'était un prétexte de dire quoi finalement les frères vont mal se comporter pour que vous puissiez descendre en Égypte et réaliser ce que Dieu avait dit à Abraham. Donc ils seront asservis pendant 400 ans, ils seront affranchis, vous connaissez après toute l'histoire, je suppose que vous avez vu le prince d'Égypte, je suppose, voilà, après la sortie d'Égypte, traversée de la mer Rouge, et après la sortie d'Égypte, 50 jours après, au bout du 50e jour, la Torah a été donnée sur le mont Sinaï. Le peuple d'Israël qui aurait dû aussitôt rentrer en terre d'Israël a fauté par des explorateurs qui, au lieu de parler du bien du pays, ils ont mal parlé du pays. Ils ont exploré la terre pendant 40 ans et donc ils ont été punis comme le peuple, une partie du peuple qui les ont suivis, vont être punis, vont mourir dans le désert, et ce n'est que la génération après, au bout de 40 ans, au bout des 40 années passées dans le désert, qui rentrera en terre d'Israël. Même Moïse lui-même n'est pas rentré en Israël. Non plus son frère Aaron, toute cette génération-là, l'exception était pour Josué, et Caleb. Ces deux qui ont pu conduire le peuple depuis donc la traversée du Jourdain jusqu'au pays de Canaan. Et donc, lorsque la Torah a été donnée, elle a été donnée à Moïse. Donc le 50e jour, c'est-à-dire le 6 du 3e mois hébraïque. Et ce jour-là, donc, c'est un jour important, bien entendu. À partir du moment où Moïse est monté, il est resté 40 jours et 40 nuits. Il est devenu tel qu'un ange, parce que les anges ne peuvent ni manger ni boire, d'accord ? Et pendant toute cette partie où il est resté en haut, les premières tables de la loi, pardon de vous dire tout cela, mais c'est important de le savoir. Les premières tables de la loi ont été écrites par les mains de Dieu directement. Lorsque Moïse est descendu au bout du 40e jour, il a vu qu'une partie, que le mélange de la population égyptienne qui s'est jointe aux Hébreux, aux enfants d'Israël à la sortie, ont commencé à faire des idoles, à représenter Dieu. Donc Moïse a cassé les premières lois, il a dû prier pour demander le pardon, il est remonté une deuxième fois, et les deuxièmes lois qui ont été écrites ne sont pas par l'intermédiaire de Dieu, mais Dieu a dicté à Moïse, et c'est Moïse qui a écrit. Ces mêmes tables de loi donc font descendre, au bout de 40 jours, et ils ont été donnés exactement le jour de Kippour. C'est pour ça que le jour de Kippour est une journée importante, c'est le jour où Dieu a pardonné. Et vous savez que même dans l'islam, il y a un jour qui ressemble à Kippour. Il s'appelle Ashura. Pourquoi ? Parce que Ashura veut dire le 10 du mois, du 7e mois. Ce 10-là correspond au jour où Dieu a tout simplement pardonné, où il a accepté le pardon de Moshe, de Moïse. Et c'est vrai qu'on raconte alors dans la tradition musulmane où les juifs et les musulmans vivaient ensemble. Il faut savoir que il n'y a que quelques années, ou peut-être depuis les années 60, après la fin de la colonisation européenne, mais les juifs vivaient énormément dans beaucoup dans les pays musulmans. Et donc il y avait beaucoup d'échanges à cette époque. Et il faut savoir que même au 6e, 7e siècle, même à La Mecque, Jeddah et toute cette partie-là où se trouve l'Arabie Saoudite, jusqu'au fin fond du Yémen, vivaient beaucoup de juifs. Pas énormément de juifs, beaucoup de tribus qui vivaient là-bas. Vers Médine, tout à fait. Donc l'islam n'est arrivé pratiquement qu'au 7e siècle, à peu près, 600 et quelques. 600 et quelques, c'est quoi, 7e? C'est 7e siècle, c'est ça. Voilà, parce que quand on dit 601, c'est 7e siècle. Bon, c'est très bien. En l'an 600 et quelques, l'Hégire. D'accord? Et en réalité, et il s'avérait que ça me rappelle une histoire aussi dans une ville qui s'appelle Mogador au Maroc, qui s'appelle en Mogador en français, mais qui s'appelle aujourd'hui en arabe Essaouira, que tout le monde connaît. Il faut savoir que c'était un port de pêche, et quand les Français sont arrivés il y a plus de 100 et quelques années, il y a donc quelqu'un qui me racontait que son père lui avait raconté, hein, d'où la transmission, et qui me disait que la première fois où les Français étaient arrivés dans ce port-là, ils étaient outrés du fait que le port était totalement à l'arrêt le samedi. Il était à l'arrêt. Et donc, je crois, un des généraux qui est parti demander, mais que se passe-t-il? Pourquoi il n'y a personne qui travaille? Si personne ne travaille, l'économie, aujourd'hui c'est le samedi, tout est fermé. Il avait compris que le samedi, et les gens qui avaient autour savaient que les juifs ne travaillaient pas le Shabbat, donc voilà, donc c'était respecté. Il y avait aussi cette notion, même au 6e siècle, de demander à l'autre, non pas pourquoi vous ne travaillez pas, pourquoi ce jour, tel que le jour de Kippour, est un grand jour, non, mais c'est tout simplement de se dire, c'est de se dire tout simplement qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et qu'est-ce qui arrive ce jour-là. Alors, on a dit donc aux musulmans ou non-musulmans, enfin aux arabes qui habitaient, parce qu'ils n'étaient pas encore musulmans, que ce jour-là, Dieu pardonne à tout le monde. Sans ce jour-là, Dieu, il efface tout. Bien sûr, si on est sincère avec lui. Je ne peux pas faire rien, je vais attendre le jour de Kippour pour que Dieu me pardonne, ça ne marche pas. Il faut être sincère. Et même si on fait semblant d'être sincère, ça ne marche pas parce que Dieu, il sonde les cœurs. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Et donc, ce jour-là, c'est un grand jour. Eh bien, sachez que même dans l'islam, vous l'avez, le jour de Kippour. Il s'appelle Ashura. Ashura en arabe veut dire le 10. Et le 10, qu'est-ce qu'il y a le 10? Ben, le 10, c'est le 10 du mois de Tijri, ce septième mois où il y a ce jour-là. Alors, il y a les musulmans pieux ont l'habitude de jeûner ce jour-là. Et ceux qui font la sadaka, c'est-à-dire la charité, et ceux qui font des banquets pour, etc. Parce que, je vous expliquerai un jour aussi en quoi consiste l'action sociale, mais dans la religion, mais en tout cas, c'est pratiquement les mêmes références. Et vous savez, ce qui est formidable, c'est pas de savoir qui est à l'origine ou pas à l'origine. Ce qui importe, c'est de savoir que lorsqu'une chose est bénéfique pour les humains que nous sommes, eh bien on l'adopte. Parce qu'elle répond à des critères. Elle nous interroge. Elle interroge notre conscience. Elle nous permet de nous améliorer, de se poser des questions. Si on ne se pose pas des questions, on ne peut pas avoir des bonnes réponses. Et donc, le jour de Kippour, le jour aussi de Ashura, et d'autres jours, qu'on pourrait appeler le carême ou autre, ce sont des moments où on s'unit. En réalité, on demande, on se pose des questions, on pose des questions dans notre fort intérieur pour voir comment on peut s'améliorer dans notre quotidien. C'est ça, si vous voulez, l'importance de ce jour. Donc, pour revenir, à partir donc de ce don, cette deuxième table de la loi, eh bien, il y a eu le don de la Torah, et à partir de là, il n'y a plus 7, mais il y a 613 commandements. Il y a exactement 248 positifs et 365 négatifs. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit « je veux me convertir », je lui dis « assieds-toi, ça va te passer hein. ». Parce que c'est difficile. Je dis « ça va te passer, je t'assure, ça va te passer ». C'est très difficile. C'est difficile d'abord d'avoir une connaissance aussi profonde, de connaître l'ensemble. Et chaque commandement est discuté, rediscuté, ainsi de suite. Mais à partir de cette période-là, donc il y a eu la loi écrite. Cette loi écrite, c'est cette loi qui a été transmise donc, de Moïse vers le peuple, donc Dieu, Moïse, et vers le peuple. Mais cette loi aussi a été accompagnée d'une loi qu'on appelle, vulgairement, juste titre, qu'on appelle la loi orale. Cette loi orale, elle permet tout simplement de donner un sens, de donner un vrai sens à la loi écrite pour qu'il n'y ait pas une lecture littérale. Cette loi orale a été transmise oralement de génération en génération jusqu'à une grande génération qui s'appelait la Grande Assemblée. Elle continuait à se transmettre jusqu'au moment où, intellectuellement, le peuple s'est affaibli et on a dû écrire tout ce qui a été transmis oralement. Parce qu'on voyait que, au fur et à mesure des temps, la loi orale s'oublie. D'ailleurs, même dans l'islam, il y a le Coran et puis il y a la Sunna. La Sunna, c'est ça aussi. Donc cette loi orale, elle se transmettait d'une manière orale par les différentes académiques. Elle était discutée. Je vais vous donner un exemple qui a été véhiculé pendant de nombreuses années et qui a été justement mal traduit. Et parce que le fait qu'il ait été mal traduit, il a causé beaucoup de problèmes, hein, pour ne pas dire autre chose. Par exemple, la loi du talion. La loi du talion a été véhiculée par certains groupes qui ont gardé le sens uniquement littéral de la religion, et puis donc ils l'ont mis à exécution d'une manière littérale. Et cela devient dangereux. Au fait, œil pour œil veut dire quoi? Parce que quelqu'un à qui on a enlevé un œil ou on a blessé, est-ce que je vais, je le dis souvent, quand on a enlevé à quelqu'un un œil, on ne va pas, comment dirais-je, enlever un autre œil, parce que là, on a un borne, et puis quand on enlève un autre œil, ça fait un aveugle directement. Donc là, le sens des mots dans la Torah est très important. Le mot pour en hébreu ne veut dire pas dans le sens de la violence telle qu'il a été effectué sur la personne. Le mot tachat en hébreu qui veut dire pour a le sens de réparation, préjudice, morale, chômage, etc. Imaginons que l'on casse à quelqu'un un bras, ben, il y a des règles. Il ne peut plus travailler, il ne peut plus faire ceci, il ne peut plus conduire, ainsi de suite. Donc toute cette période-là aujourd'hui, nous les avons aujourd'hui avec des assurances. Voilà, quand quelqu'un il se fait bousculer ou autre, il y a des assurances qui sont là pour payer le chômage, la réhabilitation, le comment dirais-je, les soins et ainsi de suite. La loi orale a été là surtout pour ça. Et parce que les sages savaient que la loi allait traverser des générations. Et le seul et unique moyen de la garder, c'était toujours de la discuter et de lui mettre avec, si vous voulez, des principes. On a des principes dans le judaïsme qui font que on ait des explications sur chaque texte et texte. On a des règles qu'on appelle des règles herméneutiques qui nous permettent de comprendre les textes. Vous savez que lorsqu'un mot est utilisé et le même mot est utilisé dans un autre contexte, il y a, on fait ce qu'on appelle, on lui donne le même sens qu'on a donné au premier. C'est-à-dire que dans les textes que nous avons, il n'y a pas ni ordre chronologique. Donc ce n'est pas un livre d'histoire, donc il serait soumis à l'appréciation des hommes. Et puis, les textes qui se chevauchent ou qui se suivent entre eux ont obligatoirement un sens. Lorsqu'il y a une forme de... tout simplement, lorsque deux versets se suivent, c'est qu'ils ont un lien en commun. On ne va pas parler d'un sujet... et parler de suite d'un autre sujet, c'est qu'ils ont un lien en commun. Et c'est la raison pour laquelle la loi orale va permettre, à travers les générations qui vont venir, les sages ont vu que l'exil allait malheureusement faire oublier le savoir. Et c'est la raison pour laquelle, après la destruction du deuxième temple de Jérusalem, où le peuple a été exilé, par exemple, contrairement à l'islam, et je vais vous expliquer pourquoi, le peuple juif, lui, au niveau de sa chronologie, il a comme référence pas uniquement la lune, il a aussi le soleil. Et la lune peut être parfois par la vision ou parfois par le côté, par le calcul, c'est-à-dire, disons-nous, par le côté arithmétique. Il faut savoir que les sages de l'époque n'avaient pas uniquement un savoir, ils avaient plusieurs savoirs. Pour être appelé sage, c'est pas uniquement un sage au niveau des textes. Il connaissait parfaitement, il maîtrisait parfaitement la science, toutes les sciences. Il n'y a pas... vous prenez le Talmud, par exemple, il y a toutes les sciences qui sont traitées dans le Talmud. Parle de tout. Et donc, si vous voulez, lorsque, à une époque donnée, on envoyait justement des messagers pour voir la naissance de la Lune, et qu'ils venaient vers les tribunaux rabbiniques pour décider si c'était la nouvelle lunaison, eh bien, qu'est-ce qui se passait? Ben, on disait oui, c'est bien. Mais lorsque le peuple commençait à aller vers l'exil, lorsqu'il y a eu la destruction du deuxième temple, on a quelque part dévoilé le calcul de cela. Et donc, on n'a plus besoin d'aller voir parce qu'on connaît, parce qu'il suffit aujourd'hui d'une manière mathématique de connaître la naissance de la Lune et de rajouter à ce cycle-là 29 jours avec presque et demi pour trouver un autre cycle. Et c'est très facile. Bon, le judaïsme ne suit pas que le cycle lunaire, il suit le solaire en même temps, mais ça c'est encore une autre histoire. Et donc, le dévoilement, par exemple, du calendrier, en est un exemple le plus parfait de ce qui était transmis oralement et qui a été écrit et expliqué et justifié. Et justifié même d'une manière et scientifique et religieuse et d'une manière rationnelle. Donc c'est pour ça que, alors souvent, par exemple, on nous dit... il y a toujours la nuit du doute. Mais la nuit du doute, elle existe aussi dans le judaïsme. Quand il y a une fête, ceux qui sont en dehors de la sphère de Jérusalem font un deuxième jour. Pour la simple et bonne raison, c'est que le temps que l'information arrive en dehors d'Israël, elle pouvait mettre jusqu'à un jour. C'est pour ça qu'il y a cette nuit de doute. Mais aujourd'hui, elle n'y est plus. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est un calcul mathématique. Nous connaissons exactement aujourd'hui, dans 10 ans, le mois de Sha'aban, si on veut, ou le mois de Tichri, quand est-ce qu'il va exactement, quand est-ce qu'il va y avoir la nouvelle lunaison. Donc quelque part, vous allez me dire, et pourtant, on en voit toujours, on garde cette transmission pour que les gens puissent aller venir. Ça aussi, ça a été gardé pour que l'on ne perde pas l'action d'envoyer des messagers pour continuer, pour que cette action ne s'oublie pas. Mais ceci dit, aujourd'hui, tout est établi, tout est connu d'avance. On a un calcul qui est juste. On n'a pas besoin d'aller, mais pour que l'action en elle-même ne soit pas dans l'oubli, alors on a dévoilé. Donc, si vous voulez en clair, depuis la destruction du deuxième temple, tout a été écrit, il y a des volumes. Des volumes de loi orale. Il y a exactement 6 volumes. Ça s'appelle en hébreu la Mishnah. Ensuite, après la Mishnah, le peuple étant exilé de sa terre, va s'installer, on va dire pour les grands savants, en Babylonie, en Irak, là où se trouve l'Irak actuellement. Et il y a le Talmud de Babylonie. Et dans ce Talmud qui regroupe à peu près 2400-2500 pages, c'est toute la discussion, donc bien sûr avec des volumes, sur l'ensemble des règles dictées dans la loi écrite. Et naturellement, vous verrez qu'il y a une différence. La loi, la Mishnah par exemple, qui a été écrite en Israël, a été écrite dans un hébreu pur, un hébreu presque biblique, alors que le Talmud lui-même est écrit en araméen, parce que justement, les générations à venir, les générations plus tard, ne parlaient plus l'hébreu, parlaient l'araméen, qui était la langue commune, la langue populaire de tous. Aujourd'hui, on ne parle plus l'araméen, donc il fallait expliquer cette langue qui est une langue qui n'est pas écrite, qui n'est juste que parlée. Donc, elle a été écrite en hébreu et en hébreu, mais sous forme de phonétique en araméen. Il faut savoir que beaucoup plus tard, il y avait des juifs dans des avant même l'avènement même de l'islam, et il y a beaucoup de textes qui étaient traduits en arabe. Beaucoup de textes bibliques qui étaient traduits en arabe, parfois en judéo-arabe, parfois en arabe littéraire. Et donc, tout cela parce que, comme je vous disais, générations qui venaient finissaient par s'affaiblir intellectuellement, et donc il fallait écrire, traduire et expliquer. Ça, c'est juste la partie Genèse. Maintenant, je vais avec vous poser la question. Une fois que vous avez vu tout cela, c'est vrai qu'on a mal à la tête, il faut peut-être un petit Doliprane à la fin pour connaître tout cela, mais sachez que la transmission, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça serait absurde de dire qu'il n'y a que le judaïsme qui parle de transmission. Il n'y a pas une seule religion qui ne pourrait pas parler de transmission. D'abord, la transmission dans le judaïsme, elle est différente et vous allez voir pourquoi. Alors, je ne suis pas sociologue ni rien du tout. Quand on interroge un juif et qu'on va lui dire qu'est-ce qui va caractériser votre religion, il va parler de la mémoire. On va parler de la transmission de la mémoire. Qu'est-ce que c'est que la transmission? Qu'est-ce que c'est que la mémoire? Sachez que lorsque le peuple juif a reçu la Torah sur le mont Sinaï, contrairement à l'époque, à toutes les nations qui l'entouraient, ils ont dit deux choses. Dieu a proposé la Torah à toutes les nations. Tout le monde l'a refusé. Chacun disait, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ta Torah? Bon, tu ne peux pas travailler Shabbat. Non, moi, mais mon commerce, il travaille bien le Shabbat. Je ne peux pas travailler, donc je ne l'accepte pas. Chacun trouvait à dire pourquoi il n'acceptait pas la Torah. Lorsqu'elle a été donnée au peuple juif, ils ont dit la chose suivante. C'est marqué dans les textes que je vous dis. Ce n'est pas quelque chose qui est inventé. Naase venishma. Nous ferons et nous comprendrons. C'est difficile. En règle générale, on essaie toujours de comprendre pour mieux faire. Ou pour faire, tout simplement. Mais là, nous ferons. Nous l'acceptons, mais dans le but de le comprendre. D'écoute. Vous savez que le terme schéma en hébreu veut dire écouter, mais veut dire aussi comprendre. Le terme schéma en hébreu signifie tout simplement une écoute, mais la compréhension. La compréhension, c'est, ça se dit en hébreu, c'est le sage. Celui qui va vers la compréhension, il va vers la sagesse. La sagesse en hébreu, c'est un savoir. Et le savoir, en hébreu, il s'appelle, comme le sage, Chacham. Le Chacham, comme je le dis souvent, a la même valeur numérique que Chayim. Chayim qui veut dire la vie. C'est-à-dire que le savoir, c'est une forme de vie. Et donc, le peuple juif, quand il a reçu la Torah, il a accepté de la mettre en pratique, mais dans le but de la comprendre. Parce que quand on comprend quelque chose, on peut faire le choix après, ne pas la mettre en pratique. Dans toutes les maisons juives, on parle de transmission, pourquoi? Et on parle de mémoire, pas uniquement d'une mémoire liée un pogrom ou à une destruction ou à quelque chose. La mémoire, c'est aussi, souvent, ce qui a été transmis de père en fils. C'est ça la mémoire. Souvent, on dit, ah, je me rappelle ton père. Marhamou, il était comme ça, ceci, cela. Il avait des valeurs. Bien, ça, c'est la mémoire. La mémoire, c'est aussi que lorsque chaque juif naît dans une famille, on va dire, traditionnaliste ou pratiquante, il y a des règles qui le préparent à cette transmission. Il y a des étapes dans sa vie qui vont le préparer. Vous savez que par exemple, un enfant, jusqu'à l'âge de 3 ans, on ne lui coupe pas les cheveux. Si vous voulez, je vous expliquerai un jour pourquoi. Parce que l'enfant est comparé à l'arbre. Les 3 premières années, on ne touche pas des fruits d'un arbre pour plusieurs raisons. Quand il atteint 6-7 ans, 5-6 ans qu'il sait parler, on commence à lui apprendre quelques règles qui sont qu'il va mettre en pratique. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes enfants me posent la question en tant que rabbin, est-ce qu'on peut jeûner le jour de Kippour ? Il y a un jeune un jour qui a posé un grand rabbin, il a dit, je veux jeûner le jour de Kippour. C'est difficile de jeûner le jour de Kippour parce que je veux juste vous rappeler que Kippour commence la veille au soir et se termine le lendemain soir. Il y a presque 25 heures sans manger, sans boire, c'est très difficile. Donc il avait posé la question, il y a la règle. La règle c'est la suivante, tu as le droit de jeûner quelques heures, tu as le droit de t'impliquer pour mieux comprendre. Mais tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Parce que étant jeune petit, tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Donc si vous voulez, toutes ces étapes vont éduquer l'enfant. Et l'enfant, quand il va avoir 13 ans et un jour, il devient bar mitzvah. Bar mitzvah veut dire le fils de la mitzvah. Regardez même les juifs non pratiquants, même qui ne font rien, qui pratiquent le jour de Kippour ou quelques petites pratiques par-ci, par-là, ben quand ils ont un garçon, ils vont faire la bar mitzvah. Alors, ben, bien sûr, aujourd'hui, c'est folklorique, la bar mitzvah, c'est... voilà, c'est coco et tout ça. Non, bon, c'est pas coco. Je... La bar mitzvah, tu deviens responsable. Tu vas, à partir de maintenant, t'imprégner de la transmission de tes parents. Donc vous voyez, ces étapes dans la vie d'un homme font que la transmission, à travers tous tout le calendrier dont je vous ai parlé, il y a des liens qui nous rappellent sans cesse l'appartenance à notre religion par telle ou telle pratique. Par exemple, il y a des fêtes avec un rituel, combien même parfois ce rituel pourrait être complètement culinaire, oui, par exemple, mais il rappelle quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Et parlant toujours du juif le moins pratiquant, il peut ne pas pratiquer, mais il va vous dire chez lui à la maison, le vendredi soir, j'ai toujours le couscous et les boulettes. Il a assimilé le couscous et les boulettes au vendredi soir. Il y a aussi les fêtes qui rappellent avec des... Ce n'est pas uniquement un repas à table, mais même à travers les repas, il y a un rituel. Par exemple, le jour de Rosh Hashanah, on mange un certain nombre de fruits sur lesquels nous récitons telle prière et ainsi de suite. Alors tout le monde a retenu la pomme trempée dans le miel. La miel, c'est la douceur, la pomme, c'est peut-être Voilà, l'acidité, on le trempe dans la douceur, c'est-à-dire que on demande d'adoucir un petit peu notre vie, notre année. Et pourtant, même la pratique, je garde toujours la pratique la moins répandue, eh bien, ce gestuel-là, il est transmis de génération en génération. Vous avez la fête de Pâques, où il y a l'histoire du peuple juif, où celui qui pose les questions, c'est pas l'adulte, c'est l'enfant qui pose les questions. Et pourquoi c'est l'enfant? Parce que le père a une obligation de raconter à son fils et de lui transmettre. C'est-à-dire que on est passé d'une transmission qui est normale pour la pérennité, pour permettre à une religion de vivre, bien sûr qu'il fallait la transmettre. Mais dans le judaïsme, c'est une obligation. C'est une obligation, comme si, par exemple, c'est une obligation pour un juif de manger du cachère. C'est une obligation, pourquoi? C'est même un commandement positif très important, à tel point que le récit de Pessah, il s'appelle la Haggadah. C'est quoi la Haggadah? C'est le récit. D'où vient ce récit? Parce que Dieu dit à Moïse, tu raconteras ton fils. Il y a un commandement de raconter à son fils ce qui s'est passé en Égypte. Et donc, cette mémoire-là, pas cette mémoire, mais cette transmission du fait qu'il y ait cette obligation de raconter à son fils, et le fils racontant à son fils, et ainsi de suite. Eh bien, depuis plusieurs générations, on a cessé de raconter. On a raconté ce qui a été raconté par nos pères et le père de nos pères, et ainsi de suite. Vous me direz peut-être, vous me poserez à juste titre tout à l'heure, pourquoi avoir scindé la Torah peut-être en deux, avoir mis oral et écrit? Écrit et oral, si vous voulez. Et pourquoi transmettre de cette manière-là? S'il y a des textes, on n'a pas besoin de les transmettre, ils sont là. Mais on va voir que ce n'est pas si simple que ça. Parce que transmettre dans la Torah, ce n'est pas uniquement raconter une histoire. Transmettre dans la Torah, c'est expliquer. C'est donner une explication. L'explication, elle n'arrive pas par. Elle n'arrive pas uniquement par l'échange, elle arrive aussi surtout par l'envie de s'asseoir et d'étudier, de connaître la profondeur du sujet pour mieux le comprendre. C'est-à-dire que dans tout foyer juif, il y a la pratique, c'est impératif, mais il y a ce qu'il y a au-dessus de la pratique, c'est l'étude. C'est-à-dire que si vous mettez sur une balance l'ensemble des commandements et vous mettez sur une autre balance l'étude équivaut à l'ensemble des commandements. Il y a par exemple des commandements qui sont liés à la bienfaisance, au bien-être, quand on va visiter un malade, quand on va être hospitalier, quand on va. La paix qui peut, comme ce qu'il y a aujourd'hui, comme ce qu'il va y avoir dans une semaine, cette paix entre les peuples, c'est quelque chose de formidable qui est marqué dans nos textes. Bien, sachez que tout cela n'a aucune une valeur importante, mais aux yeux de l'étude, c'est petit. C'est-à-dire que si on mettait l'étude sur une balance, elle vaudrait l'ensemble de ses commandements. Pourquoi? Parce que c'est à travers l'étude, justement, depuis, rappelez-vous, depuis le récit, que l'on comprend, que l'on finit par comprendre ce qu'on finit par comprendre, pardon, les textes qui nous ont été donnés, pourquoi on va même parfois titiller, pourquoi la Torah a utilisé tel mot et pas tel mot. Vous savez, en plus, ce qui est formidable dans la Torah, contrairement peut-être à l'islam, nous on critique Moïse. Chez les musulmans, on ne peut pas critiquer Mahomet. Vous savez pourquoi? Parce que Abraham, il s'appelait Abraham Avinu. Abraham, c'était notre père, Avinu. Donc il nous habillait déjà. Et Moshe, Rabinu, Moshe notre maître, il nous rhabillait, donc il faisait déjà le prêt-à-porter entre les deux, mais en tout cas, il y a une obligation de critiquer Moïse. Et même la Torah le critique. Pourquoi? Parce que ça veut dire que, combien même il y a des êtres exceptionnels, ils sont soumis à la critique, mais pas la critique pour critiquer. La critique de comprendre pourquoi ils ont utilisé ça, pourquoi ils ont fait cela et pas ça. L'exemple de Moïse est le plus frappant. Est-ce que vous savez pourquoi Moïse n'est pas rentré en Israël? Parce que tout simplement, Dieu lui a demandé d'aller parler à un rocher pour que celui-ci puisse donner de l'eau. Et au lieu de sanctifier Dieu par la parole, il a pris un bâton, il a dit, tiens, baba, tiens, tac, tac. Il a donné des coups. Et voilà que l'eau a commencé à couler. Dieu lui dit, écoute, tu ne m'as pas écouté. J'avais demandé de parler. Puis il dit à Dieu, mais tu te rends compte? Tu me mets 600 000 hommes avec moi? C'est difficile, je ne peux pas gérer ça. Tu me mets tout seul. Toi, mon Dieu, toi, tu as des anges de partout, des anges là, des anges ici, etc. Moi, je suis seul. Oui, mais je t'avais demandé de parler parce que tu aurais pu, par la parole, permettre la plus grande grandeur. Tu aurais sanctifié le nom de Dieu. Là, tu l'as quelque part. C'est quoi le contraire de sanctifier? Tu l'as profané? Profané, tu l'as profané. Et donc, tu ne mérites pas. Maintenant, les textes, nous aussi, on dit à Dieu, mais attends, tu es injuste. Pourquoi tu n'as pas laissé Moïse rentrer? Ça va, il a fait une seule, ça va. Tu as pardonné combien? Mais lui, il a fait une petite chouïa et tu pardonnes à tout le monde. Et lui, il impose. Ben, il y a des études. Des textes qui vont aller en profondeur et qui vont essayer de comprendre quel a été le comportement de Moïse et pourquoi Moïse s'est comporté de la sorte. Est-ce qu'il l'a fait d'une manière volontaire, involontaire et ainsi de suite. Et au fait, quand on va dans la profondeur des textes, on voit que quoi? Que Moïse lui-même, il s'est dit la chose suivante. Comment moi je peux avoir sorti tout un peuple depuis l'Égypte, et je vais être le seul à rentrer en Israël et les laisser tous mourir dans le désert. Je veux mourir avec eux dans le désert. En réalité, c'est ça la réflexion. Et au fait, quand on le voit de prime abord, on se dit finalement, ça a été une punition qui était presque calculée pour que la génération qui était à l'époque de Moïse, qui était méritante, eh bien, elle est restée avec Moïse dans le désert. Parce que, par exemple, dans le judaïsme, comme dans l'islam, comme dans toutes les religions, on parle à la fin des temps, de la résurrection des morts. Vous appelez ça en arabe Al-Yom Al-Qayyam, le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, eh bien, on ne va pas rentrer comment ils vont ressusciter, mais chaque génération sera ressuscité avec son chef. Vous imaginez une génération qui peut être ressuscitée son chef, sans son chef? C'est impossible. Donc Moïse est resté dans le désert. Donc vous voyez par exemple, ces critiques-là, ce sont des critiques positives qui nous mènent à une réflexion. Eh bien c'est sur ça que le modèle de la transmission juive c'est fait d'ailleurs même, il y a même un verbe en hébreu qui est passé en hébreu, qui est passé en français. Et je termine avec ça. Le verbe chamailler, tout le monde connaît chamailler. il y a un rabbin qui s'appelle Beit Shammai et un autre qui s'appelle Beit Hillel. Les deux n'étaient pas d'accord. Pourtant, la marche à suivre était comme Beit Hillel et pas comme Beit Shammai. C'était pas grave. Pourquoi ? Parce que le but de la discussion, c'est de sortir. Alors, c'est sûr que ce n'est pas à l'Assemblée en ce moment, à l'Assemblée nationale, qu'on nous donnera des exemples. Mais le but de la discussion, c'est de voir jaillir la lumière pour donner la meilleure orientation possible. Voilà ce que c'est que... Pourquoi, et particulièrement dans le judaïsme, la transmission est non seulement obligatoire, et pourquoi la transmission se fait de cette manière-là, parce que la Torah telle qu'elle a été donnée, telle qu'elle a été faite, telle qu'elle a été transmise, elle-même a été transmise de génération en génération, et on a oublié justement, on a mis cette partie écrite orale pour que chacun puisse faire aussi, puisse faire travailler sa tête pour que les générations à venir ne soient pas uniquement devant un texte qui peut-être parfois, s'il est écrit soumis à l'appréciation des humains, il peut être changé. C'est pour ça que la transmission, et enfin, c'est pour ça que je disais tout à l'heure l'absurdité de parler de transmission, mais la transmission dans le judaïsme est non seulement une obligation par rapport au destin du peuple juif déjà, par rapport au fait qu'il ait été exilé plusieurs fois. Et donc cette transmission a permis au peuple juif dans les différents pays, différentes communautés, différentes civilisations, de garder la même pratique. Vous imaginez qu'on parle du Shabbat depuis l'époque de Moïse ? Vous imaginez qu'on parle du son du chauffard depuis l'époque de Moïse ? On n'est pas à 600-700, on est à presque 3000 et quelques années. Et donc cela s'est fait tout simplement par la transmission du Père au Fils, parce que cette transmission qui est devenue le symbole et l'ère même, le début de l'ère juive. Parce que Pessah, c'est la fête du printemps, mais c'est la fête du départ aussi. Eh bien cette fête-là, elle est symbolisée par la transmission. La vraie transmission, c'est celle qui consiste à rencontrer, à expliquer, être dans la pédagogie, être dans l'explication. Car l'explication, c'est ce qui nous éloigne de l'ignorance. Et je le dis souvent, quand on s'éloigne de l'ignorance, on va vers la réflexion. Et la réflexion, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, de partager ensemble, ne pas être d'accord. Ne pas être d'accord. Surtout, quand on est tous d'accord, il y a un problème. Toujours, quand nous on dit une majorité, moins un, parce que c'est une majorité unanime, c'est problématique. D'ailleurs, même dans les pays où il n'y a pas de démocratie, ils mettent 99,9, parce qu'ils se disent, bon, il y a toujours un ou deux, ils vont dire non, je suis contre. Et même, on va le mettre pour dire, c'est important. C'est important de poser des questions. C'est important de... Il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas être d'accord, mais de comprendre. La compréhension, c'est le mot schéma. Et ce schéma, c'est notre profession de foi. C'est pour ça que le peuple juif le récite deux fois. Une fois au réveil, une fois avant le coucher. Le schéma, c'est-à-dire, écoute Israël, Dieu est un. Donc c'est la première transmission que l'on fait un enfant. Cette transmission-là consiste tout simplement à comprendre. La compréhension, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle émane surtout de notre capacité à prendre du temps, à prendre des textes et à s'en inspirer et les étudier pour mieux les comprendre. Dans chaque foyer juif, dans chaque synagogue, dans chaque... On parle, on discute. Tiens, pourquoi le Shabbat, je n'ai pas le droit de faire telle et telle chose? Il y a un jour, il y a un monsieur qui m'a dit, monsieur le rabbin, expliquez-moi pourquoi le Shabbat, on ne peut pas faire ça. Ah, je lui dis, je ne peux pas te l'expliquer en 5 minutes. Il me dit, non, mais expliquez-moi, comme ça je peux faire le Shabbat. Je lui dis, tu es quoi, toi? Tu fais quoi dans la vie? Il m'a dit, je suis dans les atomes. Je lui dis, explique-moi comment fonctionnent les atomes. Ah, mais je ne vais pas te les expliquer en 5 minutes. Ah, je lui dis, bah, la même chose. Viens avec moi. Toi, tu vas m'expliquer les atomes. Et moi, je vais t'expliquer le Shabbat. Et tu vas voir que moi, je vais peut-être adorer les atomes. Toi aussi, tu finiras par adorer le Shabbat. Et ça, c'est aussi la transmission. Merci de m'avoir écouté. En vous souhaitant une excellente soirée, je vous laisse poser les questions qui s'imposent. Merci.